8h36, on va aller rejoindre notre prochaine invitée. Elle s'appelle Emmanuelle Marceau, professeure associée à l'École de santé publique au département de médecine sociale et préventive à l'Université de Montréal. On va se parler un petit peu de ces volontaires qui demandent à être infectés pour aider à combattre le coronavirus. Madame Marceau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Tétain.
Alors, Madame Marceau, je lisais quelques articles à ce sujet-là. Ça disait donc que des milliers de personnes se disent prêtes à risquer leur vie pour faire avancer la recherche et accélérer une sortie de crise. Je vous pose la question en premier lieu. À quel point on risque notre vie en se faisant infecter d'un virus qui actuellement peut tuer des milliers de personnes?
Bien, en fait, la question est plutôt d'ordre médical. Présentement, on sait que le coronavirus, il y a différentes réponses. Effectivement, certains, ça va les mener à la mort. D'autres sont complètement asymptomatiques. Alors, c'est très variable. Mm-hmm. Je vous dirais, c'est un peu la roulette russe. On ne sait pas comment notre système, comment nous, comme personne, si on contracte le virus, on va être infecté, on va réagir et à quel point ça peut avoir des conséquences négatives sur nous et notre santé.
Et Mme Marceau, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'habituellement, dans ce genre de test-là, ce qu'on fait, c'est que c'est organisé après le développement d'une thérapie ou d'un vaccin pour tester l'efficacité. Mais là, en fait, on n'a pas de vaccin. Donc, on teste justement pour développer un vaccin. Est-ce que c'est une des premières fois qu'on voit ça dans le domaine de la santé?
En fait, c'est arrivé pour le développement de d'autres médicaments et vaccins. L'idée, c'est des mesures assez exceptionnelles. Hein. Ici, on est dans un contexte aussi très particulier de pandémie. Il y a une crise sanitaire mondiale et l'Organisation mondiale de la santé, justement, tout récemment, a émis des nouvelles lignes directrices pour permettre d'assouplir un peu les règles et les principes directeurs en éthique de la recherche qui, habituellement, encadrent justement les essais cliniques pour des nouveaux vaccins, des nouveaux médicaments. Donc, habituellement, si on a un nouveau vaccin potentiel, on va vacciner les participants et on va les laisser dans leur milieu naturel, voir est-ce qu'ils vont développer la maladie et qu'est-ce qu'il y en est. Là, ici, l'idée, c'est compte tenu qu'on est très pressé, compte tenu de la crise, on se dit, ben, pourquoi pas donner le vaccin et ensuite infecter de manière délibérée les gens pour voir si effectivement le vaccin est efficace ou non. Donc, c'est sûr, d'un point de vue strictement, je dirais, plus temporel, scientifique, bon, sauf du temps, c'est plus rapide. Mais là, il faut voir au point de vue éthique, est-ce que c'est acceptable et quels sont les risques auxquels s'exposent ces participants-là? Alors, c'est ça un peu les réflexions ici dans le contexte.
Et Mme Marceau, vous parlez donc de la question d'éthique, donc le sacrifice que la société peut prendre, parce que là, on se dit, là, c'est soit, dans le fond, on peut sacrifier des gens en leur faisant infecter, en les infectant à partir de ce virus-là, et on peut risquer justement de causer le décès, mais en même temps, on peut se dire que ça va simplement donc causer, quasiment rien à quelqu'un parce que les gens sont asymptomatiques. On prend une chance, dans le fond, en jouant avec la vie des gens. C'est plus à ce niveau-là que le débat est. Est-ce qu'on doit faire ça, oui ou non?
C'est ça. Alors, effectivement, il y a ce risque-là. On ne sait pas comment les gens vont réagir. Il ne faut pas l'oublier non plus, il y a un risque en lien avec le vaccin, parce que, de par définition, c'est un nouveau vaccin, une nouvelle façon de prévenir. Et il y a différentes phases dans les essais cliniques qui sont plus ou moins risquées, mais c'est sûr que quand on passe du modèle animal et on va chez l'homme, dans la première phase des essais cliniques, c'est sûr que les risques sont très élevés. Alors, effectivement, il y a plusieurs risques pour ces participants-là, non seulement qui sont liés au coronavirus, le fait d'être infecté, mais aussi qui sont liés, il faut l'oublier, au vaccin et des effets indésirables. Et ça arrive, je vous dirais, dans l'histoire scientifique, que lorsqu'on a des nouveaux traitements ou vaccins et qu'on les essaie et qu'on se trouve en essai clinique, qu'on se rend compte qu'il y a des effets indésirables graves et il faut arrêter l'étude parce qu'effectivement, on expose des gens à un trop grand risque. Alors, tous ces éléments-là doivent être, je vous dirais, réfléchis, prévus par les équipes de chercheurs. Et il faut, dans ces contextes-là, même si les gens sont volontaires et se disent oui, on veut faire notre part, on veut faire en sorte qu'on va enrayer la pandémie, mais il faut être très conscient que ces gens-là doivent donner un consentement qui est libre et éclairé, c'est-à-dire qu'ils ne subissent aucune pression, aucun incitatif, par exemple, qui ferait ça pour de l'argent ou pour espérer avoir de meilleurs traitements, etc. Ça serait, au plan éthique, questionnable, voire impossible à aller de l'avant. Et il faut voir aussi que le consentement soit éclairé, c'est-à-dire que les gens soient conscients de l'ensemble des risques auxquels ils s'exposent et qu'ils soient prêts à assumer ces risques-là.
Et ça veut dire, Mme Marceau, par exemple, que quelqu'un qui arrive avec un état de santé plus faible, un état de santé précaire, qui lui dit, bien, malgré tout ça, je veux me proposer pour être volontaire. Mon consentement est libre et éclairé. Est-ce qu'on accepte cette personne-là, malgré le fait qu'on sache que oui, elle est prête à le faire, mais que son état de santé est un peu précaire?
Oui, plus fragile. Ben en fait, ces questions-là sont déjà répondues dans les lignes directrices qui ont été produites par l'Organisation mondiale de la santé, à savoir que on exclurait toute personne qui serait pas en bonne santé et toute personne qui serait plus à risque, c'est-à-dire que même une personne en bonne santé de 60 ans pourrait pas être admise pour ce type de décès-là, parce qu'on sait que le coronavirus a tendance à être plus agressif chez les personnes là en fonction de leur âge. Alors tous ces éléments-là, les critères d'inclusion puis d'exclusion, c'est à la fois des considérations scientifiques, hein, donc au point de vue médical, qu'est-ce qu'on connaît de ce virus-là, qui est plus à risque, et c'est des considérations éthiques également. Souvent, il y a des comités d'éthique qui vont analyser les protocoles de recherche et justement travailler avec les chercheurs pour essayer de diminuer les risques, essayer de ne pas avoir d'exclusion hein, de participants qui soient injustes, mais d'avoir quand même des exclusions qui soient justifiées. Donc, habituellement, les chercheurs ne sont pas seuls pour aller de l'avant avec des essais cliniques. Il y a le travail des comités d'éthique qui est fort important pour justement avoir un regard un peu plus critique en amont et s'assurer autant que possible que la recherche se fait selon des standards éthiques élevés.
Et Mme Marceau, une dernière question pour vous, et je cite un passage là, d'un texte que je lisais dont vous avez été cité. Ça dit ceci: « Je pense qu'il faut voir quelles sont les motivations de chaque personne pour prendre part à un tel essai clinique. Si pour certains, c'est de protéger ou d'enrayer la pandémie, je suis d'accord. Mais si pour d'autres, c'est l'espoir d'être immunisé ou d'avoir accès au premier traitement avant tout le monde, c'est ce qu'on appelle une méprise thérapeutique. » Expliquez-nous un petit peu la méprise thérapeutique. En quoi ça consiste? C'est dans le fond les gens qui vont prendre part à un essai clinique dans l'espérance d'être immunisés les premiers.
Oui, ben en fait la méprise thérapeutique, c'est pas propre au coronavirus, c'est lorsque des gens participent à un projet de recherche dans l'espoir d'être guéris, d'être traités, d'être immunisés.
Okay.
Hein? Et dans un contexte de recherche, de par définition, quand on fait de la recherche, on est dans l'incertitude. On pose des hypothèses, puis on veut aller valider si nos hypothèses sont justes. Alors on peut pas promettre à des participants à la recherche, vous allez être immunisé, vous allez être guéri, etc. Parce que là, à ce moment-là, les gens diraient, ah ben super, je vais faire cet essai-là pour être guéri. Mais évidemment, on peut pas promettre une telle chose. On veut tenter de démontrer si oui ou non le vaccin, le traitement, le médicament est efficace. Mmh. Alors, on voit ça des fois dans des contextes là tragiques où les gens sont atteints de cancer ou autre, et là, ça se dit, ben ils sont prêts à tout, et là, vont essayer tous les essais cliniques possibles pour essayer de guérir. Il faut faire bien attention, il faut que ce soit très clair pour les participants qu'habituellement, on ne contribue pas ou on ne participe pas à un projet de recherche pour son bien-être personnel. Ça peut être, oui, effectivement, quelque chose de positif pour la personne, mais de façon générale, comme je vous dis, puisqu'on est dans un contexte d'incertitude, il y a des risques. Il faut absolument que les participants soient conscients de ça et se disent pas, ben, je vais essayer le nouveau médicament puis tout va bien aller. Alors, à ce moment-là, puis je reviens à un élément que j'ai discuté tout à l'heure, on parlerait pas d'un consentement libre et éclairé parce que la personne n'est pas éclairée, elle est moins consciente des risques auxquels elle s'expose puis qu'on est dans un contexte d'incertitude. Donc, on peut pas lui promettre qu'elle va être guérie, qu'elle va être immunisée. Puis d'ailleurs, avec la COVID, hein, les scientifiques nous disent présentement, on ne sait pas si on peut le réattraper, si on peut être réinfecté. Mm-hmm. On ne sait pas comment non plus le système va réagir, le corps va réagir. Est-ce que la deuxième attaque sera pire que la première, similaire ou moindre? Tout ça, ce sont des questions qui se posent présentement au plan scientifique. Alors, les gens qui participent à des essais, ben, il faut qu'ils soient très sensibilisés à ça pour qu'ils comprennent véritablement dans quoi ils s'engagent.
Et Mme Marceau, finalement, j'en ai une petite dernière pour vous parce que là, bon, vous nous parlez de ça. C'est très intéressant. Est-ce que vous, en tant qu'experte dans le domaine de la santé, vous participeriez? Vous porteriez-vous volontaire?
C'est une bonne question. Ce que je vous dirais souvent quand on a des protocoles de recherche, c'est que le diable est dans les détails. C'est-à-dire que chaque protocole de recherche va proposer des modalités, une méthodologie, un médicament qui est différent. Il faut, de façon générale, c'est très difficile de répondre à une question. Il faut vraiment regarder quelle est l'étude précise, en quoi consiste la participation qui est sollicitée pour une personne. Alors, je vous dirais que c'est plus de s'en remettre. Quel est le contexte? Donc, nous, on discute aujourd'hui là, des principes généraux en étude de la recherche, etc., mais c'est de voir dans le contexte okay, quel type de vaccin, c'est quoi la méthodologie qui est utilisée, quels sont les risques qui sont associés aux substances utilisées. Et à ce moment-là, une personne peut vraiment réfléchir et décider si, oui ou non, elle veut prendre part à l'étude.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Mme Marceau.
Merci à vous, M. Pépin.
Merci.
Bonne journée.
Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.